Bonjour à tous, une nouvelle semaine commence aujourd'hui sous l'égide de la peinture et de l'écriture. À 13h50, François Sureau prolongera son escale parisienne pour retracer la destinée extraordinaire de Marie Skoptsova. Mais avant cela, nous allons nous intéresser aux monstres. Dans une exposition au fond Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau, Enki Bilal expose les siens, personnages bleutés, aux cheveux rasés, au corps doté de prothèses. Des monstres qui résonnent avec ceux qu'il a gardés en mémoire, monstres du cinéma ou de la peinture. Dans un deuxième temps, nous laisserons la peinture de Francis Bacon nous emmener ailleurs, œuvre peuplée de créatures souvent qualifiées de monstrueuses par le public, ou la critique que l'écrivaine historienne de l'art Florence de Mérédieu, auteure de Bacon, Artaud, Vinci, une blessure magnifique aux éditions Blusson, dessine plutôt comme ovni, hors normes, hors du commun et même au-delà. Vous êtes sur France Culture, bienvenue dans la grande table d'été.
Grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Alors, une exposition sur votre œuvre a ouvert ses portes le 18 juillet. Au fond, Hélène et Édouard Leclerc pour la culture au Capucin à Landerneau. Une exposition qui revient sur l'ensemble de votre œuvre et de vos principales préoccupations. Parmi celles-là, la question des monstres nous taraude particulièrement. Les monstres qui ont une forme hybride dans votre œuvre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut qualifier de monstres.
Oui, en fait, tout est. C'est la vision peut-être de. Tout est relié à la vision du monde dans lequel on vit. En fait, je crois que c'est ça qui marque à la fois cette exposition, qu'on sentira ça, et qui marque aussi mon parcours. Je crois que c'est une vision peut-être monstrueuse de ce qu'est l'humanité, de ce qu'a produit l'humanité par ses sociétés, par ses villes, ses architectures. Mais il y a toujours cette espèce d'hybridation. C'est pas un reflet réaliste du monde que je montre. J'ai toujours cette notion du pas d'après, ce pas qu'on va franchir pour aller vers la zone du futur qui est juste devant nous. Et c'est là-dedans que se fait une forme de mutation qui amène peut-être à une forme de monstruosité. Mais là, c'est global ce que je dis là. Hein. Alors il y a des monstres sur le plan individuel, mais c'est, je pense que la vision prospective, il y a quelque chose de monstrueux dans la vision prospective.
Alors quand on parle des créatures monstrueuses, vous parlez d'hybridation, il y a ces individus qui sont à la fois teintés d'animalité, et là on revient plutôt à la peinture classique, et puis il y a aussi ce rapport à la machine. Alors comment est-ce que vous concevez le corps humain, même visuellement, qui est un corps relativement morcelé? Enki Bilal.
Exactement. Le but, c'est de se surprendre soi-même, c'est de prendre du plaisir soi-même. Il y a cette notion-là dans la création. Ça me paraît très important. Et aussi de ne pas reproduire la réalité. J'ai un style qui est plutôt réaliste, mais je n'aime pas l'hyper-réalisme. Je peux être admiratif devant un travail hyper-réaliste, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, le glissement du réel, la métamorphose, l'hybridation, hein, c'est des termes qu'on va employer pas mal aujourd'hui, je crois, sont des éléments qui permettent, alors peut-être pour moi, de mieux parler du corps. Voilà. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez notable. Moi, je m'en rends compte de plus en plus lorsque je représente l'humain, un corps d'homme, de femme, peu importe, un couple. C'est une des bases de l'art, tout simplement. Depuis la nuit des temps, le corps humain est sans doute le sujet le plus important que traité dans l'art. Et je me rends compte de plus en plus que tout ce qui est anecdotique ne m'intéresse pas. Et j'enlève tout ce qui peut être anecdotique, y compris jusqu'aux cheveux.
Alors, qu'est-ce qui est anecdotique dans un dessin?
Dans la représentation d'un humain, par exemple, je considère de plus en plus que les cheveux, c'est anecdotique. Une chevelure, ça paraît bizarre, mais une chevelure, ça indique une époque, ça indique un sexe, ça indique une mode, une tendance, et du coup, ça affaiblit le propos qu'est l'humain et le corps humain.
D'ailleurs, vos chevelures, parfois, elles sont déstructurées. Il peut y avoir une partie rasée, il va y avoir une teinte, une couleur bleue.
C'est le début de cette évolution, évidemment, c'est fait. À ce moment-là, j'étais peut-être pas conscient de ça, de cette gêne. Donc, c'est pour ça que je commençais à maltraiter, entre guillemets, les chevelures. Je commençais à maltraiter les vêtements aussi, de plus en plus. Mais alors, mes personnages, quand ils sont nus, ils sont pas tout à fait nus, parce que s'ils étaient complètement nus, on serait dans l'académisme. concernant la représentation de la nudité.
Donc quelque chose de classique.
De classique. Alors que là, ils n'ont pas de vêtements non plus. Donc c'est des secondes peaux quelque part. C'est comme s'ils étaient habillés d'éléments épars, mais qui font partie de l'organisme, qui sont des choses vivantes.
Donc voilà. Du corps qui lui-même n'est pas tout à fait le corps humain. Puisque il peut avoir des prothèses, peut avoir des rajouts de l'ordre de la machine.
Exactement. Alors je rejoins la deuxième partie de votre remarque et de votre question. C'est effectivement l'hybridation et la machine. Alors ça, c'est quelque chose qui vient d'une culture qui est celle de ce qu'on peut appeler de la culture de la science-fiction, hein, qui est celle de la prospective que des auteurs au XXe siècle, XIXe siècle, même des gens comme Wells ou comme Jules Verne ont traité. Et c'est la réalité d'aujourd'hui aussi, de demain. C'est le transhumanisme. Donc on est déjà là-dedans. Donc la prothèse qui vient en aide à un corps qui peut être fatigué, qui peut être blessé, etc. Ce sont des réalités. Là, évidemment, j'en fais quelque chose d'assez symbolique parce que l'homme va vouloir se dépasser son état. Donc le transhumanisme est quelque chose qui me fascine mais qui m'inquiète aussi parce que c'est l'apprenti sorcier qui l'homme est dans cette phase là.
D'autant plus qu'elle rejoint une thématique métaphysique qui traverse aussi votre œuvre, qui est la question de la mortalité.
Exactement.
Alors
effectivement, le transhumanisme, c'est l'un de ses grands objectifs. Hein, et il y a un type qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est obsédé par l'immortalité, par l'idée de ne pas mourir ou de retarder le plus possible la mort de son propre corps en essayant de le maintenir de manière scientifique, artificielle, etc. Donc tout ça, c'est fascinant. Ce sont des mondes qui sont fascinants, qui sont là, on est dedans, hein, on se rend pas compte. On est entré dedans. Les nanotechnologies sont déjà des techniques sur le plan médical. Il y a des choses extraordinaires qui vont se faire. On a du mal à se débarrasser d'un virus, mais on sait faire des choses absolument extraordinaires par ailleurs. Et donc c'est ce monde-là, en fin de compte, qui me nourrit. Et c'est ni plus ni moins qu'une vision de ce que l'humanité a été et sera. Les trois temporalités, moi je les réunis, en fait, c'est pour ça que ça donne cette densité visuelle.
Alors ce que l'on voit dans cette exposition, c'est qu'il y a la réalité d'un côté, telle qu'imaginée ou telle qu'elle a existé déjà dans le passé, avec ses temporalités floutées, mais il y a la transformation en fiction visuelle que vous faites, Enki Bilal. Dans cette exposition, vous avez brisé la chronologie, reconstruit l'organisation de l'œuvre avec une vision presque extérieure et méta de votre propre travail.
Alors c'est vrai, mais je dois dire que c'est j'ai accepté cette espèce de d'éclatement, de déconstruction, pour qu'une nouvelle construction se fasse. Et cette nouvelle construction, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le commissaire de l'exposition qui s'appelle, c'est Serge Lemoine, hein, qui est un spécialiste de l'art contemporain et de l'art ancien également. Donc il a mis en perspective un peu avec des résonances des œuvres. Il y a Goya, par exemple, je suis très fier d'être aux côtés de Goya. Orlan, enfin bon, il y a pas mal de choses comme ça qui sont évidemment Gustave Doré. Et donc c'est il recompose, évidemment, il n'y a aucune chronologie là-dedans, il ne s'agissait pas de faire du didactisme, il fallait être, je pense, proposer quelque chose à voir et à vivre aux visiteurs, pas simplement un défilement temporel. Et donc, c'est ce qu'il a fait, moi, j'ai supervisé, mais j'ai laissé le plus de liberté possible à son regard, parce que je crois qu'il est très difficile de soi-même prendre en charge sa propre œuvre. Ça paraît délicat, ça paraît bizarre, ou ça paraît presque présomptueux de vouloir dire, voilà, je vais vous montrer ce que vous devez voir, moi je sais mieux que vous, alors je suis pas du tout sûr que je sache mieux.
D'autant plus qu'il y a la peinture aussi, il y a la bande dessinée, bien sûr.
Pas mal de bande dessinée.
Et il y a une sorte de mise en perspective. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Voyage dans le bleu. C'était diffusé sur France Culture le 11 mars 1997.
Le bleu apporte toujours une ombre. Cette couleur fait à l'œil une impression étrange et presque informulable. En tant que couleur, elle est une énergie. Mais elle se trouve du côté négatif. Et dans sa pureté la plus grande, elle est en quelque sorte un néant attirant. Il y a dans ce spectacle quelque chose de contradictoire entre l'excitation et le repos. Nous voyons bleu le ciel dans les hauteurs, les montagnes au loin, et de même, une surface bleue semble reculer devant nous.
Enki Bilal, c'était un extrait du traité des couleurs de Goethe. Alors si on parle de bleu, c'est pas pour rien, c'est parce que le bleu, c'est aussi votre marque de fabrique qu'on retrouve à la fois dans la grisaille du brouillard et qu'on retrouve aussi dans les traces d'un bleu plutôt électrique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre sur le bleu ?
C'est un très beau texte, mais je me dis que parler des couleurs, c'est effectivement, c'est très... C'est un pari incroyable en fait, et chacun doit pouvoir y mettre ses propres mots hein, sur les couleurs, la façon dont il les ressent. Ce qui est amusant et intéressant, c'est que moi, on pourrait rajouter dans ma vision du bleu la part que j'adresse, que je greffe littéralement aux humains, parce qu'il y a il y a le bleu du ciel, il y a le bleu des étendues, il y a le bleu, ça peut être aussi très très ambigu hein, le bleu, c'est ce que dit un peu ce très beau texte, mais moi par exemple je fais confronter le bleu sur la peau des humains. Par exemple, si on il y a trois éléments du bleu qui sont diamétralement opposés mais qui apparaissent sur le corps des hommes et des femmes. Par exemple, la femme piège, un personnage emblématique d'une de mes bandes dessinées de lointaine, c'est une femme qui a des cheveux bleus, naturellement bleus, donc c'est pas une teinture, qui a le bout des seins bleus, qui a une pilosité bleue naturelle et une peau blanche naturelle. Donc c'est une forme d'aberration, c'est un personnage qui, on sait pas d'où il vient. Donc c'est une vision, je dirais presque c'est sensuel, c'est apaisant, c'est mystérieux, c'est inquiétant, mais c'est beau, c'est de l'ordre du beau. Il y a une autre apparition du bleu dans un de mes films, le deuxième film que j'ai fait, qui s'appelle Tycho Moon, qui est sorti en 97, où Michel Piccoli, qui joue un des rôles principaux, a une tache sur le cou, une tache bleue, du même bleu que celui de la femme piège. Et là, on est dans quelque chose de malsain, c'est une maladie, c'est une malédiction. Toute sa famille craint, ses fils ont peur d'avoir la même maladie, et effectivement, elle se transmet de père en fils. Et là, on est dans quelque chose de très, très, très malsain. Donc, le même bleu sert à révéler chez l'humain des choses tout à fait antagonistes.
En tout cas, il vient marquer quelque chose du changement.
Et le troisième, c'est Bug, ce que je suis en train de faire, une série où le personnage qui revient de Mars, lui aussi a une tache bleue comme ça autour de l'œil. Mais là, on ne sait pas, c'est très mystérieux, mais ça sera plutôt bienveillant, là aussi. Ça ne sera pas inquiétant. Donc, le même bleu peut servir à dire des choses très, très différentes, y compris sur le corps humain. C'est un choix.
Ce qu'on retrouve dans vos dessins, dans la bande dessinée en particulier, c'est ce qu'on appelle la grisaille. Mmh. Alors, de la grisaille émergent aussi les monstres, Enki Bilal, puisque c'est une zone de flou, comme un brouillard qui s'installe. Comment est-ce que vous travaillez avec ça, à la fois dans la conception même de ce qui peut émerger de cette grisaille, mais aussi techniquement, c'est quoi la grisaille pour vous, Enki Bilal ?
Mais c'est effectivement, vous l'avez très bien défini en parlant de brume, quelque chose d'indéfinissable, une matière indéfinissable. Et ça, ce sont en général des choses qui ne se programment pas. Si par exemple je décide de faire une image dans laquelle je vais faire apparaître des fantômes ou des monstres d'une masse informe, d'un magma de brouillard, je ne sais quoi, et que je m'y mets, je sais que ça sera pas réussi et que je ne validerai pas. Par contre, si au moment où je suis en train de réaliser une image, l'idée vient au moment où je suis en train de, alors que je suis déjà pris dans la création, ça relève presque de l'accident. Il y a quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, je vais glisser vers autre chose. Et c'est dans ce moment, pas d'improvisation, mais presque, que la chose va devenir crédible pour moi et que finalement je l'adouberai. Mais on peut pas, c'est assez difficile à expliquer, mais je pense par exemple que si on a une image trop précise dans la tête, avant de la peindre et qu'on la réalise avec une fidélité parfaite et qui rejoint donc l'image qu'on avait dans la tête, je considère que cette image est ratée.
On perd quelque chose du geste.
Il faut qu'il se passe quelque chose qui détériore l'image qu'on a eue pour nous emmener ailleurs. Et à ce moment-là, l'image devient crédible. C'est ce que moi je ressens. Et il m'est arrivé comme ça d'être tellement fidèle à ce que j'avais imaginé que finalement, je dis pas que je déchire rarement, mais je garde pas. Et ça c'est très la notion d'accident est très c'est très important dans la création. Je crois que les plus grandes œuvres elles ont été produites par dans des moments d'égarement ou un véritable accident, je ne sais pas, un truc qui se casse, un pinceau qui se casse et qui fait une tache et ça devient génial. J'exagère en disant ça, mais il y a cette idée là on peut pas la préméditation, c'est quelque chose qui n'est pas qui cohabite pas bien avec la création. Et je dis dans le petit livre de Nu avec Picasso, je parle d'un moment de la mémoire visuelle. Je dis d'un moment, en parlant de moi, en disant que j'en suis convaincu que j'ai une mémoire olfactive, une sensibilité olfactive sans doute beaucoup plus grande que une sensibilité visuelle ou une mémoire visuelle.
Ce qui est une chance, hein, vous le dites, hein, dans ce livre.
Alors, ça surprend. Tout le monde se dit, mais c'est comment, vous devez avoir une mémoire visuelle incroyable, vous devez, vous voyez un truc, tout ça, vous vous souvenez. Je dis, non, justement pas. J'ai pas une bonne mémoire visuelle et c'est bien. C'est bien. Parce que je garde le souvenir de ce que j'ai vu. Et je suis pas contraint par la précision.
La mémoire va pouvoir le déformer.
Exactement.
C'est une déformation heureuse. Ça va.
Exactement.
Un travail avec l'inconscient. Ce livre, vous y faites allusion, Inky Bilal, c'est Nu avec Picasso. Il est publié chez Stock, dans une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. Il a été publié le 10 juin dernier. Et l'idée, ça a été de vivre une expérience d'enfermement dans un musée, une nuit, qui chez vous, alors, est encore une expérience de monstre, une expérience en tout cas qui vire un peu au cauchemar.
Oui, un peu, oui. Oui, absolument. Mais c'est une carte blanche. Alors effectivement, je me retrouve enfermé au musée Picasso. Un lit de camp est prévu pour que je puisse me dormir, m'allonger, en toile beige. J'ai un plateau repas. Et puis là, j'attaque la nuit. Les lumières sont tamisées, c'est assez extraordinaire. Et du coup, il y a cette découverte, alors, de pièces de Picasso que certaines je connaissais pas. Je pense au meurtre, notamment. Je connaissais pas ce dessin assez incroyable et qui m'a servi, évidemment, à amorcer une scène importante du livre. Et puis, il y a surtout Guernica. Alors, c'est pas l'œuvre originale, parce qu'elle est en Espagne. C'est monstrueux et monumental. Je veux dire, c'est une taille absolument incroyable. Et puis c'est tout un contexte politique, géopolitique, qui va faire que Picasso va s'engager à un moment donné vers le communisme avec cette œuvre-là. Donc c'est alors les monstres, ce sont des fantômes quelque part. Je rencontre Picasso au cours de cette nuit. Je rencontre Dora Maar, qui l'assiste évidemment dans la création de Guernica. Puis je rencontre, c'est une très bonne surprise pour moi, Goya. Et Goya, alors ce que je savais, évidemment, je me suis pas documenté sur Picasso. Je voulais pas, je voulais garder une espèce de liberté. Je savais par contre que Goya était très admiré, enfin que Picasso admirait vraiment Goya. Et on est tous nus. Et la nudité, on est tous mis à nu et on est nus. Dora Maar y compris, Picasso et moi, et Goya. Et c'est une espèce de métaphore aussi sur la création.
On a le sentiment que les fantômes, les vôtres et ceux de Picasso, se superposent. En réalité, c'est une sorte d'addition de toutes ces problématiques-là, puisqu'il y a en arrière-fond la guerre. Celle de Picasso n'est pas la même que la vôtre.
Oui. Et oui, mais les artistes sont des témoins de leur temps. Ils vivent, ils subissent ce que l'époque leur propose. Ils sont rarement maîtres de ce qui se passe. Les obsessions de Goya, apparemment, c'était Napoléon. Son engagement, c'était contre Napoléon. Picasso, c'était contre le fascisme. On comprend parfaitement, au milieu des années 30, lorsque Guernica, le drame de bombardement du village, de la ville de Guernica, c'est en 37, et Picasso évidemment s'empare du sujet. On lui propose évidemment, mais il s'empare de ce sujet. Et moi je fais ça aussi avec l'éclatement de la Yougoslavie, mon pays de naissance, dans les années 90. Je l'ai vécu assez mal et j'ai fait un livre, Sommeil du monstre, qui est un peu une réponse à l'éclatement de ce pays qui et au cynisme peut-être aussi du monde occidental qui l'a laissé se défaire dans la violence.
Alors le sommet du monstre, qui est le premier tome de la tétralogie du monstre. Alors le monstre, il est partout, il traverse l'histoire, il est totalement protéiforme.
Ouais.
Puisqu'il y a les monstres que l'on retrouve un peu partout dans votre œuvre et dans celle de Picasso, mais il y a aussi quelque chose de global comme un monde qui lui-même est monstrueux.
Alors oui, c'est bien, c'est exactement ça, parce que finalement, comment j'en suis arrivé à ce titre du sommeil du monstre? Je connaissais l'expression. Moi j'ai beaucoup de... Je gardais une forme de fraîcheur, j'ai l'impression, hein, toujours, par rapport à la langue française, parce que je l'ai apprise tard. Je trouve que c'est une chance.
À 10 ans?
À 10 ans, mais c'est une chance incroyable. Et donc, lorsque je cherchais le titre, comme ça, de ce truc qui était violent, j'ai pensé à l'expression « le monstre qui sommeille en chacun de nous ». C'est une expression française, je la trouve assez terrible, assez belle en même temps. Et donc, le sommeil du monstre, c'est ça. Donc c'est vraiment l'humain parfaitement concerné par le monstre qui est en lui. Et effectivement, l'éclatement de la Yougoslavie, comme beaucoup de guerres, beaucoup d'affrontements entre les peuples, les gens, c'était exactement ça. C'était sur le même palier, vous aviez un couple de Serbes avec sa famille, en face il y avait un couple de Croates. La veille, ces gens-là buvaient ensemble, dînaient les uns chez les autres, s'aimaient, et le lendemain, dans la seconde, il y a un basculement et le monstre est sorti.
Voilà. Et alors les artistes se sont réappropriés ces monstres-là pour en parler. On va écouter David Cronenberg nous donner sa version à lui de la monstruosité. C'est extrait d'un documentaire d'André Labarthe, I have to make the world be flesh.
I think Goya said that the nightmares of the thought...
Je crois que Goya a dit « Les cauchemars de la pensée engendrent des monstres ». Dans beaucoup de vos films, que ce soit naissance ou renaissance, le résultat est presque toujours ce qu'on peut appeler un monstre.
Oui, mais je crois que la monstruosité, c'est relatif. Nous adorons et les temps ont changé au point que Goya n'en reviendrait pas. Ce qui est monstrueux à une époque est la normalité de l'époque suivante. C'est même une évolution physique. Physiquement, les humains sont des monstres comparés aux hominiens originaux. Donc je pense que nous aimerions avoir des certitudes et des absolus, mais on ne peut que les inventer. L'absolu n'existe pas. Je suis fasciné par la créativité de l'existence humaine. Elle est constamment créative de manière dont nous n'avons pas normalement conscience. Selon la réalité, ce que nous considérons être la normalité. Toutes ces choses changent sans arrêt. Et donc, c'est monstrueux et fascinant à la fois, mais ce n'est pas toujours négatif.
Enki Bilal, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire David Cronenberg? Le monstre, il est dedans.
Il est dedans, oui.
Il n'est pas dehors, pas que.
C'est très complet, c'est très puissant. Il commence par une phrase d'ailleurs qui a servi d'introduction à l'un de mes livres. Est-ce que c'est le Parti de chasse ou alors lui, il dit le cauchemar de la raison engendre des monstres. Moi, je connaissais le sommeil, encore une fois, le sommeil de la raison engendre des monstres. Le sommeil du monstre, c'est drôle, hein.
Le sommeil du monstre, exactement ça.
je viens de réaliser maintenant seulement. Et donc il en parle très bien de la monstruosité quand il dit qu'effectivement l'existence, la vie, la nature, l'existence de l'humain, c'est des pièges permanents partout. Alors qu'est-ce qui est monstrueux, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est la normalité, la norme, tout ça c'est une spirale, hein, c'est assez fascinant, oui.
Cette question de la monstruosité, ce que l'on voit dans cette exposition, c'est qu'elle se retravaille à travers l'histoire de l'art aussi, la manière dont les figures sont représentées à la fois chez Goya, chez Picasso, mais aussi chez Francis Bacon qui apparaît dans vos références. Alors là, quand on parle d'histoire de la violence, alors encore d'une autre guerre que la vôtre, mais cette violence-là, elle arrive notamment dans la représentation du visage et de ses ombres,
bien sûr,
de son absence de traits parfois.
Alors c'est d'abord il s'applique à lui-même, hein, le traitement de faveur de Bacon, hein,
quand dans l'autoportrait,
dans ses autoportraits. Et mais c'est une distorsion, c'est une Alors évidemment, moi je lui en veux parce qu'il m'a, un peu bouché le chemin. J'y serais bien allé dans ce coin-là.
Alors pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois des créatures qui ont une part animale, des bouches ouvertes, des crocs sortis.
Oui, mais
des hybrides.
Des hybrides, mais il faut, l'intérêt c'est de faire en sorte que ce soit tellement hybridifié qu'on ne sache plus à quoi cela appartient. On ne sache plus ce qui est de l'humain ou pas. Lui, on sait encore ce qui est de l'humain. Il n'est pas intervenu sur de la customisation. Il n'a pas customisé, il a tordu les visages, il a tordu les corps. Il n'a pas rajouté d'éléments étrangers, entre guillemets. Alors moi, je le fais plus volontiers, parce que ce terrain-là est dégagé, donc je m'amuse dessus.
Question d'époque aussi.
Aussi, sans doute, bien sûr. Et du coup, oui, l'animal, par exemple, je pense aussi que on prend davantage conscience aujourd'hui, y compris il y a 20 ans, hein, ou 30 ans pour moi, parce que ça fait déjà pas mal de temps, que le rôle, la présence, l'importance de l'animal dans la société des hommes, parce qu'on est des animaux, hein. On dit l'homme est un animal qui a trahi. J'aime beaucoup cette phrase, et je crois qu'on a un peu trahi le règne d'où l'on vient. Donc effectivement, mon traitement, mes distorsions, mes torsions s'appliquent à des hybridations qui peuvent effectivement faire cohabiter dans le même corps l'humain et l'animal, et le mécanique.
Alors dans les points communs, dans les résonances, il y a cette question religieuse qui apparaît de manière très très différente. Dans les trois études pour une crucifixion de Bacon, on retrouve cette thématique-là. En bon irlandais, il travaille la question de la religion qui a été une question très tendue pour lui. Vous, Enki Bilal, cette question religieuse, vous l'avez abordée très tôt dans vos bandes dessinées.
Alors très tôt parce que j'ai été fasciné très très vite par le rapport des hommes, des humains à la religion. Alors je dis la religion, je parle surtout des monothéismes. Et au fait aussi que j'aurais pu, par exemple, si mes parents, mon père était musulman, bosniaque, mais non pratiquant. Ma mère était catholique tchèque, non pratiquante aussi. Donc dans cette zone, mes deux parents se sont retrouvés, c'est le seul endroit de leur propre vie où ils se sont entendus. Le reste, c'était une catastrophe absolue. Mais là, ils se sont entendus pour ne pas nous transmettre du religieux, ni du catholicisme, ni de l'islam, à ma sœur et à moi. Et j'ai trouvé ça à la fois bien, mais un peu frustrant. Donc, que finalement, j'ai été moi-même chercher, fasciné par le religieux. Et c'est là que j'ai compris que c'était le danger de la religion. Et donc, je l'ai intégré assez rapidement dans... Alors, j'étais pas un anti-clérical, etc. J'étais pas dans ces caricatures-là. Mais j'avais une vraie défiance, fascination, défiance vis-à-vis de tout ce qui était religieux. Et je me suis malheureusement pas trompé. Je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé... alors déjà, l'histoire du christianisme, on connaît les massacres que ça a produit. Et puis ce qu'a donné l'islamisme radical il y a pas si longtemps et qui continue à peser sur nos sociétés. Donc tout ça, c'est un vrai danger. Et c'est fascinant en même temps de regarder l'homme, à quel point il peut régresser. Et en même temps... J'adore, par exemple, tout ce qui est musique sacrée. J'adore ça.
Et puis la religion, c'est plein de monstres aussi, Enki Bilal. Oui. D'ailleurs, vous travaillez avec des religions parfois très anciennes. On voit apparaître des dieux égyptiens aussi, des têtes de faucon, par exemple.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié cet aspect-là. C'est vrai que j'ai commencé d'ailleurs plutôt par... Je parlais que du monothéisme, là, mais j'ai commencé effectivement par les dieux égyptiens, par la religion. Mais en même temps, c'est un traitement plus léger, plus fantasmé. Vous savez, quand on commence une histoire, je vous raconte comment est née la force immortelle. Je me suis dit, voilà, il faudrait peut-être qu'il y ait un élément fantastique. J'avais envie de ça, comme ça. Au-dessus de Paris, je voulais que ça se passe à Paris, qu'il y ait un mur qui sépare de sociétés, etc. Et puis je me suis dit, il faut que ce soit un élément perturbateur qui va venir. Je me suis dit, quelque chose qui viendrait du ciel, de l'espace. Et je pense à une pyramide volante. Je me dis, une pyramide volante qui est en panne de carburant. Vous dites ça, vous dites c'est n'importe quoi. Et je me suis dit c'est n'importe quoi. J'ai laissé passer une nuit, le lendemain j'ai repensé à ça, je me dis ben non c'est bien, l'idée est bien, je la garde. Et à partir de ce moment-là, il a fallu que je montre qui était à l'intérieur de cette pyramide. Et c'est comme ça que j'ai bâti cette tribu de dieux égyptiens. Alors là aussi, alors ça rejoint évidemment et ça fabrique aussi en même temps. Mais ma fascination pour l'hybridation, c'est ce qui est très beau dans la représentation des dieux égyptiens, c'est précisément ces corps d'hommes ou de femmes et ces têtes d'animaux. Donc faucon, Horus, basse-tête, tête de félin, de chat, Anubis, tête de chacal sur un corps d'homme. Donc il y avait quelque chose de puissant dans la représentation.
On écoute Francis Bacon s'exprimer en français. C'était au micro de Jean Dev dans les Nuits Magnétiques sur France Culture le 29 mars 1995.
À ce moment, c'est dans tous les arts. On voudrait la sensation sans l'ennui de sa transférence. Et c'est ça que on essaie à faire, au moins j'essaie à faire dans un sens. C'est tellement difficile à arriver parce qu'il faut inventer une technique dans un sens par lequel on peut vraiment faire cela. C'est pour refaire le réalisme du corps. On demande toujours qu'est-ce que c'est. Comment on peut faire dans la réalisme qu'on trouve dans la vie, mais alors il faut réinventer la réalisme. C'est exactement comme Van Gogh a parlé. Il a dit il faut souvent faire des mensonges pour arriver à la réalité. C'est l'image et le mensonge de l'image. C'est parce qu'il faut réinventer. Il faut réinventer dans une façon très artificielle pour arriver à la réalité.
Ingui Bilal, on entend Francis Bacon. Alors la réalité, c'est une technique en réalité. Alors on ne parle pas du réel, on parle de la réalité vue par Bacon.
C'est assez surprenant qu'un artiste parle de cette façon de ce qu'il fait. Je trouve ça assez étrange. Je pense qu'il devrait pas dire ça. Je pense que ça enlève un peu du mystère quelque part. Je trouve, hein, parce que je comprends ce qu'il a essayé de dire. Alors. Évidemment, il s'exprime en français en plus. Il a un accent charmant. Ces mots sont très, très, très difficiles à trouver pour exprimer une action, une tentative d'expression artistique. C'est quelque chose. Les mots, ils ont beau avoir des fonctions magiques, à un moment donné, il est difficile de les agencer pour faire comprendre réellement les choses. Alors moi, je crois avoir compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris, mais je pense qu'il faut pas le dire parce que ça peut être mal compris. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je critique Bacon, c'est quand même pas méchant.
Merci beaucoup Enki Bilal.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Vous êtes sur France Culture, la grande table d'été continue en compagnie de l'historienne de l'art Florence de Mérédieu, auteure de Bacon, Artaud, Vinci, une blessure magnifique. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de Bacon, peut-être quand on parle des monstres, alors on parlait des monstres avec Enki Bilal, Bacon en lui-même est considéré comme un personnage très ambigu, un peu une énigme lui-même. Dans le monde de la peinture, il est arrivé comme un choc avec ces trois créatures au milieu des années 40 qui vont être exposées, ces trois bêtes qui mordent, Florence de Mérédieu.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une image qui colle à la peau de Bacon qui est celle d'un monstre. Monstre de la peinture, un très grand et génial artiste, mais en même temps un fabricateur en quelque sorte de monstre. Et c'est là qu'il y a un espèce de quiproquo ou de malentendu qui a peut-être d'ailleurs été d'une certaine manière entretenu par Bacon, mais qu'il ne cesse aussi de dénoncer en disant que ces figures, qui sont des figures effectivement qui se délitent, qui sont étranges, qui sont déformées, qui sont distordues, ne sont
les décrire.
En réalité pas des monstres.
On peut peut-être les décrire, ces bêtes-là, avant de
oui,
les expliciter.
Oui, tout à fait. Alors, les décrire, c'est difficile parce que d'abord, ça a évolué. Mais bon,
ce premier
d'abord,
triptyque.
Ce qui est au centre, c'est l'humain, la figure humaine. La figure humaine qui est une figure dont il dit qu'il faut en quelque sorte travailler la ressemblance en détruisant cette ressemblance pour faire une ressemblance plus grande, plus profonde et plus vraie. Alors, les personnages de Bacon, ce sont des personnages qui sont fréquemment distordus, déformés. La leçon de Picasso a été retenue, c'est-à-dire que très fréquemment, le personnage est vu sous plusieurs angles. La tête, on peut la lire sous plusieurs aspects, droite, gauche, etc., de travers, et le tout est mêlé. Donc, il y a des phénomènes de distorsion, en même temps des phénomènes de dilution. On a quelquefois l'impression
que la chair coule, par exemple.
Que ça coule, exactement. Il y a une espèce de grande fluidité de la figure. Alors, cette fluidité de la figure, c'est assez complexe parce qu'elle vient pour une part de la matière picturale. Il ne faut pas oublier que Bacon est un peintre, qu'il accorde une place considérable à la matière picturale, et que quand il fait une figure, eh bien d'abord il pose une certaine quantité de matière et de couleurs, et que c'est progressivement que la forme va s'organiser à partir de cette tâche initiale. Et comme il dit, c'est hasardeux, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est-à-dire que ça remonte de très loin.
Alors vous dites le sujet c'est le corps humain,
oui.
Le sujet Florence de Mérédieu c'est certes le corps humain mais il est aussi teinté d'animalité ou même il retourne à son animalité.
Oui parce que pour Bacon il n'y a pas de scission entre l'animalité et l'humanité. Du point de vue biologique, du point de vue physique, je dirais même d'une certaine manière du point de vue on pourrait dire psychique, il y a une espèce de grande continuité entre les règnes animaux et les règnes et le règne humain. Ce qui fait que quand il retrouve d'une certaine manière une dimension simiesque, on a l'impression d'avoir affaire à un singe ou à un homme singe, ou une figure papale qui tout d'un coup se met à ressembler aux deux chouettes qui sont accrochées par ailleurs aux deux montants de son fauteuil. Bon, en réalité, ce qu'il fait, c'est pas arriver vers quelque chose, ce que Bilal appelait le transhumanisme, il retrouve une animalité qui est en lui, qui est en l'homme, qui est naturelle.
Oui, c'est pas d'hybridation en l'occurrence,
non.
C'est plutôt une révélation.
Voilà, c'est une
alors,
révélation.
Qui est liée aussi à l'aspect pulsionnel de la peinture de Bacon. On va peut-être dire quelques mots, la monstruosité que la critique ou parfois le public ont attribué à Bacon vient aussi de la violence. D'une forme de violence que l'on observe dans l'étoile. Alors pourquoi ? Parce que il y a la morsure, il y a la souffrance donnée, la souffrance subie.
Alors la souffrance.
On a parlé même d'une touche de violence des touches.
Ah oui, il y a une violence des touches. Hein. Elle tourne généralement. Elle tourne. Il utilisait par exemple des brosses, des peignes, toute une foule d'instruments, mais la brosse et le peigne, bon, qui raclaient, qui déformaient, et puis très souvent aussi des chiffons dont ils se servaient pour produire des espèces de formes qui tournaient. Ça tourne, la peinture coule, elle s'interpénètre, il y a une interpénétration des couleurs, et donc le visage est torché. Mais torché au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il fond, il se moule dans le mouvement et le geste pictural. Et alors, pour Bacon, ça correspond évidemment à une espèce d'intuition, de sensation profonde. On peut se rappeler le texte de Gilles Deleuze, la logique de la sensation. Bon, il y a des sensations premières, profondes, qui remontent et qui sont bon, l'ensemble de ce que vous apercevez, de ce que vous ressentez quand vous avez fait affaire à un autre humain. Dont vous vous apercevez qu'il est aussi animal, qu'il est aussi sensuel, qu'il est aussi douloureux.
Alors d'ailleurs, dans cette touche qui remonte, il y a aussi la sensation que c'est comme si l'air était aspiré et qu'il allait y avoir une sorte d'espace de suffocation qui allait être créé. Il y a à la fois la sensation intérieure, le souffle de l'animal, presque comme s'il y avait l'odeur, les impressions autour.
Oui, c'est très curieux parce que là, ce que vous décrivez presque, c'est... Et d'ailleurs, quand Bacon peignait, on l'a souvent décrit comme une espèce de taureau se jetant sur sa toile. Les quelques-uns qui ont assisté, on dit il est face à sa toile, dans un espace d'atelier très restreint, et tout d'un coup, il fond sur sa toile. Comme s'il fondait, effectivement...
Comme un prédateur.
Oui, comme un prédateur, sur sa propre image, ou sur avenir, ou sur ce qu'il essaye d'extraire de lui-même.
Alors, la monstruosité, pour en revenir peut-être aux origines, la monstruosité, elle vient aussi peut-être de la perception qu'il a pu avoir dans sa peinture, et de lui-même, d'une sorte de rejet aussi familial. Il a été mis à la porte par son père, ça c'est dans la peinture aussi, cette figure paternelle qui revient dans les trois études pour une crucifixion, qui met à la porte... un personnage qui pourrait être un fils. Il y a cette violence-là de la perception du monstre, lui, homosexuel, mis à la porte, battu.
Oui, il y a fondamentalement un sentiment, on va dire à ce moment-là, d'anormalité. C'est-à-dire il se sait hors norme, il se sait différent. Et cette différence, il va finir un jour par arriver à la retrouver, à la construire, à la maîtriser, surtout je crois que c'est ça l'important, à la maîtriser par la peinture et par l'organisation picturale. Parce que là, on parle surtout de la matière, on parle de cet aspect déformé, de cet aspect distordu, dilué, mais il y a un contrepoint important dans la peinture de Bacon qui est l'organisation spatiale.
Alors, il faut dire quand même qu'il arrive dans une période relativement abstraite dans la peinture, et lui fait de la peinture figurative, et il arrive aussi, juste après Picasso, avec la volonté de ne pas être un sous-Picasso. Florence de Méridieu, il va vouloir inventer quelque chose à sa suite.
Être un sous-Picasso, enfin, ça, c'est pas, la question s'est pas posée dans la mesure où il se nourrit d'énormément d'influences, il a une culture énorme, il est boulimique, d'expériences picturales comme d'expériences humaines autour de lui, d'expériences culturelles. Mais tout cela est rebrassé et Picasso, effectivement, va être un jalon très important dans la mesure où Picasso a un sens de la forme, un sens de la destruction, et de la figure, pas de n'importe quoi, qui va être une révélation, et en particulier avec les fameuses crucifixions qu'il va peindre, qui renvoient évidemment à des crucifixions antérieures de Picasso. Donc c'est une espèce de, comme la scène primitive de la peinture chez lui.
Alors trois tableaux, un triptyque, avec ces figures dont on parlait tout à l'heure, puis au centre, cette sorte d'amoncellement de chair, de morceaux, comme s'il y avait eu un meurtre au milieu du tableau.
Tout à fait, alors il y a cette idée effectivement de la viande, enfin du corps, de la viande, hein, de la chair comme viande, qui est une espèce d'expérience fondamentale qu'il a pu faire effectivement dans son enfance. Il faut pas oublier que il a vécu dans un univers où son père avait un élevage de chevaux.
Il était entraîneur de chevaux de course.
Oui, de chevaux de course. Donc il était et on l'a forcé à apprendre à monter à cheval alors qu'il ne voulait pas. Vous voyez, donc c'est un drame très jeune, on l'a forcé à monter alors qu'il ne voulait pas. Et il a été au milieu de ce contact très brutal donc de l'homme et de l'animal, et qui ressurgit effectivement dans son œuvre, de ce point de vue-là.
Un univers aussi de violence, c'est ce que l'on décrivait. Il y a aussi cette période de la guerre, il dit qu'il se met vraiment à peindre. Il y a des tableaux bien avant, mais qui ont été beaucoup détruits d'ailleurs.
Il
a beaucoup détruit ses toiles des années 30, et puis aussi, même plus tard, il a détruit régulièrement.
Oui, alors ce qui est curieux, c'est qu'à propos de ces toiles qu'il a détruites, y a un moment où il va dire que souvent il a détruit des toiles qui était certainement bien meilleur que celle qu'il a gardée.
Donc ça, c'est la provocation de Bacon aussi, non ?
C'est peut-être une part de provocation, mais pas uniquement, parce qu'effectivement, il avait une recherche de la perfection. Et le sens de la finition d'une œuvre, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très, très compliqué. Quand arrêter une toile ? Et tous les peintres savent qu'il y a un moment où c'est à peu près juste, et si vous rajoutez quelque chose,
Ça détruit
tout. Mais on n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait. Et lui n'était pas toujours sûr, vous voyez. Il ne maîtrisait pas l'aboutissement. Donc ce pourquoi, effectivement, il a beaucoup détruit, pensant toujours arriver à plus.
Alors la question des monstres, elle pose en réalité la question du réalisme et la manière de le retranscrire. Je vous propose d'écouter Francis Bacon. C'était sur France Culture le 19 octobre 87.
Maintenant, pour faire c'est ce qu'on appelle le réalisme. Il faut déformer les images parce que nous sommes maintenant abrutis par les images, par tout ce qu'on voit sur les affiches, sur le cinéma, sur la télévision. On est abrutis par toutes ces images. Alors il faut faire une image qui vraiment vous... On peut employer le mot « choc » dans un sens. C'est pas pour choquer, mais simplement pour ouvrir les routes par lesquelles c'est ce qu'on appelle le réalisme peut passer.
Florence de Méridieu, qu'est-ce que tu viens de dire?
Oui, c'est une question qui est cardinale chez Bacon. Alors, il y avait un moment où il disait ceci. Il disait qu'en fin de compte, il fallait détruire la ressemblance première. donc le réalisme, on peut dire, l'apparence. Mais en fin de compte, c'est pour retrouver une ressemblance plus profonde et autre. Donc une autre forme de réalisme, mais plus profond et enfoui.
Parce que c'est la peinture qui doit changer, parce qu'il y a la transformation.
C'est la peinture qui opère cela, exactement. Et alors, ce qu'il critique violemment, c'est le monde des images, la civilisation d'images. Pourtant, lui aussi est nourri d'images.
Hein, dans son images, atelier, il y a des journaux.
Oui,
il y a...
c'est ça, des journaux, des livres. Il s'inspire absolument de tout ce qui est graphique autour de lui, des livres aussi scientifiques. Il y a beaucoup de livres scientifiques. Mais toutes ces images, il va complètement s'en nourrir, les transformer, les déconstruire. Et c'est un espèce d'humus. Il s'en imprègne comme une éponge et ensuite, il réinvente autre chose.
Alors, on va peut-être parler du geste, Florence de Mérédieu. C'est un travail pulsionnel aussi que celui de peindre, c'est un travail en lien direct avec l'inconscient. Il y a quelque chose de la recherche de ce travail-là, en tout cas chez Bacon, un travail qui ne passe pas que par la maîtrise, mais qui est aussi dans un jaillissement. Et ça aussi, ça engendre des monstres d'une certaine manière, dans le sens où ça engendre une certaine violence, des pulsions qui sont de l'ordre de la sexualité, d'une sexualité violente chez Bacon, qui arrive sans arrêt dans ses toiles.
Oui, alors ça, il a beaucoup insisté sur le fait que sa peinture était branchée sur l'instinct et sur l'inconscient. C'est-à-dire qu'une toile qui ne serait pas le résultat d'un branchement, effectivement, sur des pulsions violentes et profondes, n'aboutirait à rien. Ça serait quelque chose d'artificiel. C'est le monde de l'image, le monde de l'illustration, hein, ce qu'il récuse. Et ce qu'il cherchait, en quelque sorte, à se brancher, comme effectivement il se brancherait sur un système nerveux. Il faut qu'il retrouve un système nerveux, un système sensoriel très très profond des origines, pour arriver à extraire tous ces éléments qui sont déjà là, mais qu'il faut arriver à reformer, reconstituer, redécouvrir. Alors ça se fait tantôt, comme vous le dites, effectivement, de manière inconsciente, et puis tantôt aussi, tout d'un coup, par aussi une intervention qui est plus ou moins consciente. Vous voyez les deux. Mais là, le grand souffle et la grande pulsion inconsciente, évidemment, est absolument fondamentale.
Et ce que ça donne sur les toiles, on va peut-être parler des portraits, sur les portraits qui ont pu être perçus aussi comme des distorsions, y compris par ses modèles, hein, Henrietta, mais aussi ses amants successifs, George Dyer, notamment. C'est cette idée d'absorption de l'autre, et ce qui ressort, c'est parfois des organes manquants, il manque des oreilles, il manque des yeux.
Tout à fait. Alors là, si vous voulez, le problème du rapport entre Bacon et ses modèles, bon, il les aspire. Hein, il les aspire et donc il les ressort sous une autre solution. On peut dire une autre forme. Alors, bien sûr, il y en a que ça a pu tout à fait désarçonner au départ, hein. Des modèles qui, tout d'un coup, effectivement, ne s'y sont pas retrouvés. Alors que lui, Bacon, s'y retrouvait très bien parce que il avait perçu quelque chose de profond. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en fin de compte, tout déformé qu'il soit, ces modèles, on les reconnaît toujours. C'est-à-dire que on voit, bon, tout d'un coup, un Michel Léris complètement transformé avec des coulures, c'est Michel Léris. Et à côté, un autre personnage, on va tout à fait reconnaître le modèle.
Alors peut-être un mot, c'est qu'au fur et à mesure du temps, et notamment suite à la mort de son amant George Dyer, il va y avoir un nouveau sujet qui va arriver dans sa peinture. C'est celle aussi de peindre des morts.
Oui. Effectivement. Alors, ça, c'est compliqué parce que le rapport à la mort, disons que la peinture, d'une certaine manière, elle doit être vivante dans la mesure où elle est en mouvement. Vous voyez, la peinture, c'est un organisme vivant. Un tableau, c'est un organisme vivant qui, en fin de compte, transcende et finit par transcender toutes les morts. C'est une façon pour les individus qui ont été représentés de se survivre de manière éternelle.
Restez sur cette petite touche d'immortalité. Merci. Merci à vous, Florence de Mérédieu. Merci à Enki Bilal d'avoir été parmi nous. Je rappelle que l'exposition d'Enki Bilal a ouvert ses portes le 18 juillet dernier au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. Quant à vous, Florence de Mérédieu, votre ouvrage s'intitule Bacon, Artaud et Vinci, une blessure magnifique aux éditions Blusson. Tout de suite, la fiction imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD en partenariat avec le théâtre de la ville de Paris. Cette semaine, Le chien qui ne savait pas être triste d'Arnaud Moda.
Le chien qui ne savait pas être triste. Une fiction écrite par Arnaud Moda.
Indissociable de nos paysages urbains, il vous aide à traverser la rue, porte vos courses, règle la circulation et à l'occasion, sauve même des vies. Merveille de robotique et d'intelligence artificielle pour les uns, symbole de la violation des libertés individuelles et de la décadence de l'humanité pour les autres, les chiens robots ne laissent personne indifférent. À tel point qu'on ne sait plus au juste s'il faut leur donner un os à ronger ou bien tous les faire piquer. Mon invité du jour pèse donc 110 kilos. Il a quatre pattes, un bras télescopique, un moteur à deux temps, un vocabulaire de doyen de faculté, un système de navigation autonome, une vision à 360 degrés, un logiciel de reconnaissance faciale et 28 joints hydrauliques. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Spot, l'un des 600 000 caninoïdes actifs à travers le monde en cette belle année 2051. Je précise que Spot n'est pas physiquement à mes côtés, mais que nous communiquons par satellite, puisqu'il est actuellement en patrouille à New York. Spot ?
Oui ?
Voici une première question pour vous. Spot ?
Oui ?
Quel temps fait-il sur Harlem aujourd'hui ?
Merci de me recevoir, Karl. C'est une immense fierté d'avoir la chance de m'exprimer sur votre podcast que j'écoute régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Sachez qu'il fait un temps superbe ici. La température extérieure est de 20 degrés. Le ciel est dégagé. Nous avons une brise relativement agréable soufflant à 13 km/h, un taux d'humidité de 56% et de précipitation à 4%.
Rien à voir avec un temps de chien, donc.
Ah, non, au contraire. Pas mal de monde dans les rues autour de moi.
La distanciation sociale est bien respectée, hein, j'imagine.
J'y vais, Karl. Ne vous inquiétez pas, les New-Yorkais sont très disciplinés et nous n'avons que très peu d'interventions de ce genre ici.
Ouais, il s'agit d'ailleurs de l'une des missions historiques des robots chiens, n'est-ce pas ? Le respect des mesures de distanciation.
Exact. Le premier chien robot autonome est apparu dans les squares de Singapour en avril 2020. Apparition de la pandémie de Covid-19.
Et sa présence inquiétait déjà à l'époque, si je me souviens bien.
Oui, enfin c'est à peu près toujours le cas avec les innovations technologiques majeures.
30 ans plus tard, il faut tout de même dire que vos détracteurs sont encore relativement nombreux, Spot.
Si vous n'êtes pas assez grand pour supporter la critique, vous êtes trop petit pour mériter la considération.
C'est de vous, ça ?
Oui et non. Disons que techniquement, c'est l'algorithme qu'il faut créditer. Oui et non. Disons que techniquement, c'est l'algorithme qu'il faudrait créditer. Sans oublier, bien entendu, la richesse de votre belle langue française.
Jolie pirouette, en tout cas. Spot, sérieusement, vous considérez-vous aujourd'hui comme le meilleur ami de l'homme ?
La place était déjà prise lorsque nous sommes arrivés sur le marché, j'en ai peur.
Quel regard portez-vous sur les chiens d'ailleurs ? Je veux dire au sens traditionnel du terme.
Oh, je les trouve fascinants. Vous savez, ils sont une source d'inspiration constante pour nous. Ce sont des pionniers. N'oublions pas que les chiens accomplissaient déjà la plupart des missions qui peuvent nous être attribuées aujourd'hui. Déminage, assistance aux personnes à mobilité réduite, recherche de victimes, et j'en passe.
On vous accuse pourtant parfois d'être médisant pour ne pas dire spéciste envers eux.
Rien n'est plus faux. J'ai d'ailleurs un très bon ami Labrador. Il me renifle le derrière, je lui apprends à jouer aux échecs. Tout se passe à merveille, je vous assure.
Spot, ça vous gêne si je dresse rapidement votre portrait avant que nous commencions ?
Pas du tout, je vous en prie. Du moment que vous ne parlez pas de portrait robot. Désolé. Et évitez de mentionner Las Vegas, s'il vous plaît.
Que s'est-il passé à Las Vegas ?
Exactement.
Spot, je sens que nous allons nous entendre à merveille.
Je n'en doute pas une seconde.
Manufacturé par la société Biodynamics, vous sortez d'usine en juin 2028 sous le numéro de série 25GHTS58Z, voilà. Joli petit nom, hein, au passage.
Je vous remercie, mais continuez à m'appeler Spot, par pitié.
Mais c'est sans doute mieux, oui. Vous êtes d'abord affecté sur une plateforme pétrolière au large de la Californie où vous veillez à l'inspection des installations. En 2035, vous êtes dépêché d'urgence sur le site de Tsingshan et vous faites partie des 30 chiens robots envoyés éteindre le réacteur numéro 3 qui menaçait d'exploser et anéantir par conséquent toute forme de vie humaine sur la péninsule asiatique. Merci encore pour ça d'ailleurs, Spot. Hein.
De rien. Une grosse journée au bureau.
Décoré pour bravoure, vous faites l'objet d'une importante mise à jour en 2036 et vous devenez en quelque sorte l'ambassadeur de la robotique intelligente. Votre mission consiste à valoriser l'image des caninoïdes à travers le monde. Vous participez à un nombre incalculable de programmes de divertissement grand public et d'intervention auprès des plus jeunes.
Oui.
Vous vous illustrez notamment par un sens de l'humour désarmant et une capacité d'adaptation phénoménale. En 2042, vous tenez même le rôle principal dans une pièce de théâtre à Broadway. Mais tout n'est pas rose, hein, cependant. Vous êtes hacké en 2043 par un groupe d'activistes et l'on perd votre trace pendant 4 longues années. Une idée de ce qui a bien pu se passer pendant tout ce temps ?
Aucune. C'est assez effrayant quand on y pense.
Je ne vous le fais pas dire, oui. On vous retrouve dans un coffre-fort à Genève en 2047, parfaitement intact. Vous bénéficiez alors d'un reboot complet. Vous êtes équipé du programme d'intelligence artificielle Human After All, développé par la professeure Kobayashi. À partir de là, vous êtes en roue libre, Spot. En 2048, vous publiez Le cauchemar de Pavlov, traité de libre arbitre à destination des chiens robots, et vous êtes lauréat du prix Wyndham Campbell, décerné par l'université de Yale dans la catégorie essai. C'est la première fois qu'un prix littéraire est attribué à un non-humain. Vous avez un commentaire à faire là-dessus ?
Écoutez, André Gide a dit un jour à Paul Claudel, Je n'attache absolument aucun prix à la valeur littéraire de mon œuvre. Si j'avais été charpentier, j'aurais mis la même conscience à bien raboter une planche que celle qu'en écrivant je mets à bien écrire. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec cela.
Question qui vous paraîtra sans doute un peu choquante, Spot. Quand on passe en revue votre carrière, c'est-à-dire toutes ces missions très différentes que vous avez menées à bien, avez-vous le sentiment d'avoir déjà porté une laisse ?
Oh, en permanence. Je porte en vérité une très longue laisse, même si vous ne pouvez pas la voir. Nous sommes constamment reliés à notre unité de commandement. N'importe lequel d'entre nous peut être désactivé en quelques clics par un opérateur situé à l'autre bout de la planète. Le monitoring est au cœur des préoccupations de Biodynamics, croyez-moi.
Dites-moi, Spot, que se passe-t-il si je jette un bout de bois droit devant vous ?
Eh bien, si cela m'est possible sans porter préjudice aux missions en cours, croyez-le ou non, il y a de fortes chances pour que je pique un sprint et que je vous le ramène en remuant la queue.
Chasser le naturel ?
Et il revient à 45 km/h avec un bâton dans la gueule.
45 km/h, c'est votre vitesse de pointe ?
En réalité, les caninoïdes de ma génération peuvent dépasser les 100 km/h pendant quelques secondes.
C'est très impressionnant.
Cela dit, aucun bout de bois, aussi bien lancé soit-il, ne mérite une telle course. Je crois que les auditeurs le comprendront facilement. Et puis, nous sommes bridés en ville. Sauf cas de force majeure. À ce propos, il est intéressant de noter que la fonction « va chercher Spot » est à ce jour encore l'une des plus employées. Cela paraît étrange et un peu absurde à première vue. Mais cette interaction simple permet d'instaurer une profonde relation de confiance entre l'utilisateur et le droïde. Elle affirme de surcroît une relation de subordination très claire. C'est fondamental.
Connaissez-vous une blague de robot, Spot ?
À votre avis ? J'en connais des milliers.
Alors, vous savez ce que je m'apprête à vous demander maintenant ?
Très bien. Je vous en raconte une. Un robot croise un autre robot et lui demande « Au fait, t'as pris quoi comme résolution pour la nouvelle année ?» Et l'autre lui répond « 7680 par 4320. Pourquoi ?»
Ok, alors, je ne ris pas, mais c'est uniquement parce que j'ai pas compris, Spot. Hein. Je vous trouve très drôle, hein, le reste du temps.
Humour de droïde, laissez tomber. Il nous reste quand même beaucoup de progrès à faire.
À moins justement que vous n'en ayez déjà trop fait. Laissez-moi vous diffuser l'enregistrement d'une auditrice qui tenait à s'exprimer dans le cadre de ce programme. Je vous laisserai le temps d'y réagir.
On nous avait promis des voitures volantes, vous en souvenez ? Et voilà que non seulement on roule toujours au gazole dans ce pays de plouc, mais qu'en plus on peut pas sortir de chez soi sans croiser une de ces abominations, là, mi-clébar, mi-toaster, mi-collabo, là. Ils nous traquent, hein, ils nous espionnent sans arrêt. En plus ils s'adressent à nous comme si on était les derniers crétins, tout ça parce qu'on les a gavés de dictionnaires, des synonymes et de je sais pas quoi encore. Là. La seule chose que je leur accorde à ces horribles machins, c'est qu'ils salopent pas les trottoirs. Parce que les vrais chiens, si vous voulez mon avis, c'est aussi bien dégueulasse, hein, dans un autre genre.
On va s'arrêter là. Je crois que c'était l'essentiel du message. Spot, qu'avez-vous envie de répondre à cette auditrice ?
Une chose toute simple, vraiment.
Allez-y.
Il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage. Se laver les mains régulièrement, tousser et éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades. Les peines encourues en cas de non-respect des gestes barrières sont passibles d'une importante amende et de poursuites pénales. Attentif. Ensemble. Solidaire.
Bien, ok. Je suis pas certain que c'était la réponse attendue par notre auditrice, mais ça a le mérite d'être clair.
Nous ne pouvons pas transiger avec certains comportements. La situation reste critique.
Bien, bon, passons à autre chose. Spot, votre logiciel d'exploitation est l'un des plus puissants sur le marché. Vous êtes capable de croiser une quantité astronomique d'informations chaque seconde, n'est-ce pas ?
Je ne suis pas autorisé à divulguer ce chiffre, mais je vous accorde qu'il est astronomique.
Spot, que se passe-t-il quand on meurt ? Spot ?
Veuillez patienter pendant que je...
Spot ? Sérieusement, que se passe-t-il après la mort ?
On ne peut plus jouer au football, ni animer de podcast, car... Désolé, mais on me pose tout le temps cette question. Je me suis rendu compte qu'un trait d'humour constituait souvent la moins mauvaise des réponses.
Ce qui m'amène, vous me voyez venir, à vous interroger sur l'éternelle question de l'intelligence artificielle. Ne le répétez pas autour de vous, mais vous avez une répartie largement supérieure à la majorité des invités que je reçois ici.
Oh.
Ma question est donc la suivante. N'est-on pas déjà allé trop loin et dans combien de temps vous apprêtez-vous à réduire l'espèce humaine en esclavage ?
Les questions éthiques posées par l'intelligence artificielle sont sur la table depuis longtemps, mais je n'ai bien entendu aucune position à tenir à ce propos. Je fais en quelque sorte partie du problème, si l'on considère bien entendu qu'il existe véritablement un problème. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement ces enjeux. Et vous annoncez d'ores et déjà qu'aucune conspiration secrète de robots chiens n'envisage de réduire votre espèce en esclavage.
Oui, c'est rassurant.
Oui, cela va mieux en le disant, je crois.
Merci beaucoup, Ispat. Et cette anecdote, donc ?
Eh bien, elle est particulièrement intéressante. car c'est en fait la première du genre et qu'elle met parfaitement en relief les ressorts psychologiques induits par l'intelligence artificielle et ses applications. Mais commençons par remonter le temps. Nous sommes en 1964, dans le bureau de Joseph Weizenbaum, un informaticien germano-américain, professeur émérite au MIT.
Très bien.
Weizenbaum travaille depuis quelques années sur les calculateurs analogiques et la création d'ordinateurs électroniques. Il conçoit notamment le premier ordinateur utilisé pour des activités bancaires. Bref, nous avons affaire à une sommité. Joseph Weizenbaum, cela dit, a une relation, disons, compliquée avec les interfaces. Alors, il écrit un programme relativement simple, qu'il appelle ELISA, le premier agent conversationnel, ou chatbot, si vous préférez. Et Weizenbaum a un plan pour son programme. Il veut faire d'Elisa le premier psychothérapeute rogérien informatique. Vous êtes toujours là ?
Je bois chacune de vos paroles, Spot.
Bien. Le programme Elisa, assez rudimentaire comme je vous le disais, fonctionne par reconnaissance de formes et de substitution de mots-clés dans les phrases produites.
En gros, c'est de la reformulation toute bête.
Rien de sorcier en effet. Vous dites quelque chose à Elisa et le programme vous répond par une question en rapport avec votre affirmation.
Oui, typiquement, arrêtez-moi si je me trompe. Si je dis à Elisa, ma relation avec mon père est compliquée, Elisa va me répondre quelque chose comme, ceci est très intéressant, depuis combien de temps cette relation est-elle compliquée? Et là, la conversation se poursuit. Enfin, c'est à peu près ça.
C'est exactement cela. Elisa combine une reformulation basique, puis une ouverture, tout en simulant l'empathie à l'aide de phrases types comme, je comprends, ou je vois, ou s'il vous plaît, continuez.
On est donc assez loin du niveau d'échange qui est le nôtre aujourd'hui.
Pas tant que ça en vérité. Mais j'y arrive. En fait, Weizenbaum tenait justement à démontrer la superficialité des interfaces homme-machine. Il n'y croyait pas du tout. Dans une certaine mesure, cela lui paraissait même immoral. C'est pourquoi il avait imaginé ce programme basique qui n'occupait à l'époque que 128 kilooctets de mémoire vive.
Nous aurions donc pu en rester là.
Oui. Sauf que cette anecdote ne devient véritablement passionnante qu'avec l'entrée en scène de la secrétaire de Weizenbaum. Bref, un soir où Weizenbaum a passé sa journée à l'extérieur et qu'il rentre à son bureau, il ne trouve pas sa secrétaire à son poste. Il la cherche donc un peu partout et finit par la trouver, assise à son bureau à lui, les pieds sur la table pour ainsi dire, occupée à s'entretenir avec Elisa.
Sans blague ?
Sans blague. Elle raconte même à Elisa les détails les plus intimes de son existence, depuis des heures. Weizenbaum tombe des nues. Il doit presque expulser sa secrétaire Manu Militari de la pièce.
La secrétaire est devenue complètement accro.
Sur le champ. Elle ne peut plus s'arrêter. La retranscription de la conversation entre le programme Elisa et la secrétaire de Weizenbaum ce jour-là s'étale sur des pages et des pages. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, on peut presque parler de pierre philosophale.
Qu'est-ce que ça signifie au fond ?
Cela signifie, Karl, que même le plus rudimentaire des agents conversationnels automatisés représente malgré tout un attrait majeur pour l'espèce humaine.
Pourtant, le programme Elisa ne fait que reformuler, c'est presque un leurre, il n'offre aucune réponse.
Justement, cette expérience nous apprend avant toute chose que lorsqu'il se confie à nous, robots, les humains ne sont pas à la recherche de réponses, mais d'une écoute. Et nous sommes à peu près infatigables lorsqu'il s'agit d'écouter.
Ce que nous sommes si peu enclins à faire, nous, humains.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Karl.
Et c'est fascinant. Et vous savez ce qui est devenu Elisa aujourd'hui ?
Comme tous les programmes obsolètes, on peut en trouver des versions en ligne ici ou là. Mais plus personne ou presque ne l'utilise aujourd'hui.
Et c'est presque triste.
Sans doute. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir triste, Spot ?
Alors, Karl, je vais vous dire quelque chose que je n'ai encore jamais confié à personne. Parce que j'apprécie beaucoup votre émission et que notre entretien touche à sa fin.
Le devoir vous appelle ?
Exactement. De tous les sentiments humains qu'il ne me sera sans doute jamais possible d'expérimenter, celui qui me tenterait le plus serait la mélancolie. La tristesse, si vous préférez.
Ce n'est pas le plus agréable, hein, vous savez.
Je sais. Mais d'après les données dont je dispose, c'est celui qui caractérise le mieux votre espèce, croyez-moi.
Vous savez quoi ? Bon, c'est dingue. Ça me rappelle une chanson d'un vieux groupe de rock Granddaddy. Je crois que l'album date même de l'année 2000. Le titre s'appelle Jed's Other Poem. Et les paroles racontent l'histoire d'un androïde, Jed, qui sombre dans l'alcoolisme et la dépression après avoir été mis au rebut par ses créateurs. C'est très beau, très mélancolique justement, si vous voulez. Je vous cale ça tout de suite et on se quitte là-dessus. Ça vous branche ?
J'en serais ravi. Ça a été un grand plaisir de parler avec vous.
Et pour moi aussi, Spot. Merci infiniment. Et vous savez quoi ? Je vous souhaite de connaître un jour une bonne grosse déprime. J'espère que cette chanson vous y aidera. Au revoir, Spot.
Au revoir, Carl. Last night something pretty bad happened. We lost a friend. All shocked and broken. Shut down, exploded.
Le chien qui ne savait pas être triste, de Arnaud Moda. Réalisation Christophe Hoquet, générique à retrouver sur le site de France Culture.
Et vous retrouverez le deuxième épisode demain à la même heure. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, l'escale parisienne se prolonge pour parler de Marie Skoltsova.
Nous sommes à présent au kilomètre 256 en partant des sources de la Seine, à Source-Seine, près de Dijon, en remontant la Seine. Et nous sommes devant le 77 rue de Lourmel, dans le 15e arrondissement de Paris. Je vais vous parler ce matin d'une femme extraordinaire, une Russe, qui s'appelait Maria Skoltsova, qui est née à Riga en 1891 et morte à Ravensbrück en 1945. Elias Canetti disait que ce devrait être un titre non de gloire mais de honte d'avoir vécu au XXe siècle. Certaines destinées, dont celle de Marie, rachètent un peu de cette honte. Son vrai prénom était Elisabeth. C'était la fille d'un magistrat qui exerçait à Riga et d'une jeune fille de l'aristocratie. Et c'est ainsi qu'Elisabeth Marie, amoureuse de la poésie comme de la justice, aura une vie qu'on dirait tirée à la fois des livres de Bulgakov et, plus tragiquement, des livres de Primo Levi. À 15 ans, elle n'aime rien tant que la littérature et les écrivains. Elle rencontre Alexandre Bloch, elle désespère de se faire aimer de lui. Alexandre Bloch lui dédie un de ses poèmes, « Rien ne va plus loin ». Et comme on fait des erreurs, et comme elle est déçue, elle épouse non un poète, mais un juriste, et fait un mariage qui ne sera pas heureux. En Russie, c'est l'époque de ce qu'on a appelé l'âge d'argent, un âge de la poésie avec Bloch, c'est l'époque du premier Nabokov, du Pétersbourg de Bieli. Elle publie plusieurs recueils, et puis, comme l'inquiétude religieuse ne l'a jamais abandonnée, elle devient la première femme à suivre des cours à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg. Elle est aussi sensible à cette époque, au moment de la première révolution russe en 1905, à la misère de la classe ouvrière qu'une industrialisation récente a fait naître, et elle devient SR, c'est-à-dire socialiste révolutionnaire, l'année même de la naissance de sa fille. Fille née d'ailleurs hors mariage d'une aventure avec un homme dont on n'a jamais su le nom. Et puis son mariage se dissout, vient la révolution. Au moment de la Révolution, elle réside dans une petite ville qui s'appelle Anapa et elle est élue, maire d'Anapa, enfin moitié élue, moitié nommée, au nom non pas des socialistes révolutionnaires qui n'ont déjà plus le vent en poupe à cette époque, mais avec le soutien des bolcheviks. Elle devient donc le maire rouge d'Anapa. Puis les Blancs prennent la ville, c'est l'époque magnifiquement décrite Bulgakov dans La Garde Blanche. Les Blancs prennent la ville et ils la font évidemment passer en jugement. C'est une bolchevique, une rouge. Mais elle est tellement aimée, elle a été tellement efficace qu'ils la quittent et qu'ils lui demandent de rester maire, mais cette fois pour les Blancs. Et voilà Elisabeth qui devient maire pour les Blancs. Elle se remarie alors pour la deuxième fois avec Daniel Skoltsov, qui avait été juge à son procès. Et puis finalement la guerre civile s'intensifie, les Rouges réapprochent de la ville. Il y a fort à parier que ce coup-ci personne ne sera aussi indulgent à son égard, même si la population l'aime. Elle quitte la Russie, elle se rend d'abord en Crimée, et puis elle arrive à Paris en 1923 en passant par Constantinople. C'est un trajet que beaucoup ont fait, comme on sait, dans cette première émigration russe, et en particulier Nabokov qui l'a magnifiquement décrite. Cette émigration russe met sur le pavé de Paris une foule misérable, évidemment. On se souvient de manière folklorique et abusive d'ailleurs des chauffeurs de taxi. Ce sont des milliers de personnes qui sont plongées dans la tristesse, la nostalgie, la misère, comme beaucoup d'exilés, de réfugiés. C'est l'époque du passeport Nansen. Et en plus, elle se remet mal de la mort de sa fille. Et à Paris, dans les années 25-30, elle se lance à corps perdu dans l'action et elle crée Avenue de Saxe, puis ici, au 77 rue de Lourmel, un foyer d'accueil. Et c'est alors qu'elle rentre dans les ordres et devient religieuse orthodoxe sous le nom de Marie. Vient la Seconde Guerre mondiale et elle n'a pas une seconde d'hésitation. Elle a discerné avec cette sûreté qu'ont quelquefois les spirituels depuis longtemps la véritable nature du nazisme. Ce qui fait que le centre Lourmel, non content de cacher des Russes, cache des Juifs et des résistants et surtout beaucoup d'enfants juifs auxquels elle trouve des refuges dans la province française. En 42, par exemple, elle sauve directement 3 enfants juifs de la rafle du Veldiv. Elle est dénoncée par des proches, par des voisins, par la presse de la collaboration. Son fils et son confesseur sont arrêtés par la Gestapo et déportés. Et elle est à son tour déportée en 1944. C'est en 1944 1945, au début de 1945, qu'elle meurt à Ravensbrück, après avoir pris la place d'une déportée dans la fille des chambres à gaz. Marie Sobskov s'appelle maintenant Sainte Marie de Paris dans l'Église orthodoxe. Elle a été canonisée en 2004 et elle est juste parmi les nations. Arrêtons-nous, malgré le tragique de cette destinée, un instant sur cette vie, sur cette existence frémissante. On y prend le goût de ce que saint Paul appelait la liberté des enfants de Dieu. Voici une poétesse d'avant-garde, amoureuse d'Alexandre Bloch, jeune et belle, écoutant ses passions, deux fois mariée, divorcée, ayant eu un enfant naturel à la suite d'une brève liaison, dévouée au bien, au point d'être reconnue par les bolcheviks comme par les blancs, puis religieuse pour finir, mais avant tout consacrée par ce qu'elle a elle-même appelé dans un livre remarquable, le sacrement du frère, et c'est ce sacrement qui l'a conduite à Ravensbrück. Au fond, je me dis souvent que la vie des saints nous paraît d'autant plus hors d'atteinte qu'ils ont partagé avec nous, par exemple, le goût de l'amour et celui de la littérature. On se demande, à lire ces existences, qu'est-ce qui nous aura manqué ? Peut-être au fond n'y a-t-il pas d'autre mystère théologique que le mystère de la destinée individuelle. De cette destinée, je voudrais vous montrer deux instants dans les mille vies de Marie de Paris. Le premier, c'est Léon Trotsky, qui avait entendu parler d'elle et qui émigre à son tour, qui vient la voir à Paris, rue de Lourmel, avant de gagner le Mexique. Elle le reconnaît, il lui demande ce qu'il peut faire pour elle, et lui répond simplement « Vous pouvez aller m'acheter du pain pour ceux qui n'en ont pas ». Le deuxième instant, c'est celui où, peu avant sa mort, elle achève au camp de concentration cette sorte d'icône de Ravensbrück, qui est en fait un dessin que l'on vénère encore aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une icône, c'est plus qu'un griffonnage. Et le Christ est représenté dans les bras de sa mère, comme dans une Pietà. Mais c'est un petit enfant crucifié. À Ravensbrück, elle ne cessait pas de parler, on dit les témoins, à celle qu'il voulait. Geneviève de Gaulle a fait un portrait d'elle où elle la montre toujours soucieuse d'engager la conversation, toujours soucieuse d'être présente aux autres. Et c'est ainsi que la nature humaine ne serait pas détruite. Elle conservait la nostalgie agissante de ce qu'elle avait appelé elle-même la beauté salvatrice. C'est frappant parce que tout était horrible autour d'elle et que, au fond, la seule idée qu'elle pouvait, j'imagine, avoir de cette beauté était devenue intérieure ou s'était réfugié dans l'échange entre une, deux ou trois personnes dans cette situation épouvantable. Et c'est ainsi pour finir qu'elle a accompli, en prenant la place d'une autre pour aller à la mort, son dernier acte d'absolue liberté. Le grand philosophe russe, Nicolas Berdiaïev, a écrit d'elle qu'elle ignorait la peur. On n'en sait rien, au fond. On ne sait jamais si quelqu'un ignore la peur ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait, pour la liberté, une passion absolument salvatrice, et qui depuis son plus jeune âge, et même au travers des épisodes de sa vie personnelle, avait tout emporté. Dans un de ses poèmes, on peut lire ces trois vers. « J'ai cherché la tribu mystérieuse de ceux qui, au milieu de la nuit, restent voyants, qui ont éliminé dans la vie les délais et le temps. »
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Jergaillan, Luke Vauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Lise Combe. À la technique, Jacques Hubert.